des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
Entre Bhoutan et Myanmar, l'Himalaya méconnu, c'est la destination à laquelle je vous invite aujourd'hui, Alain Vaudet, cinéaste conférencier, notamment pour le groupe Altaïr, et qui est venu en Mayenne présenter son film il y a quelques temps. Alain Vaudet, bonjour.
Bonjour.
Cette virée en Himalaya que vous nous proposez aujourd'hui, elle promet d'être plus que dépaysante, et elle sort vraiment des sentiers battus.
Absolument. Absolument. J'ai toujours d'ailleurs travaillé hors des sentiers battus, si vous voulez. Toute ma vie, ma carrière, ça a été ça. Et la région dont on va parler, cet état qui a été très longtemps interdit, l'Arunachal Pradesh, donc qui est coincé entre le Bhoutan et la Birmanie, qu'on appelle maintenant Myanmar, et c'est une région que j'ai commencé à approcher en 1972.
Vous dites bien commencer à approcher parce qu'il nécessite un apprivoisement.
Un apprivoisement, mais surtout, il était absolument interdit à cette époque-là aux étrangers d'y aller, à moins d'avoir des autorisations vraiment très très spéciales. C'était extrêmement difficile, et c'est resté encore maintenant une zone militaire, mais c'était déjà à l'époque une zone militaire qui était en grande partie revendiquée par la Chine. Donc, quand je me suis rendu là-bas en 72 pour monter ma première grosse expédition, je n'ai pas pu passer cette frontière pour aller en Himalaya. Mais je me suis arrêté au bord de cette frontière, au pied de l'Himalaya, où j'ai monté mes toutes premières expéditions. Et j'ai donc toujours vu, pendant des années et des années, j'ai toujours vu ces montagnes lointaines, couvertes de neige, qui me faisaient rêver.
Et qui vous appelait ?
Et qui m'appelait, absolument, parce que je travaillais sur cette région, mais avec des comptes rendus et avec des textes que j'avais pu obtenir sur place, là-bas, dans la région où j'allais, dans le nord-est de l'Inde. Je savais un petit peu ce que je pouvais découvrir là-bas, mais je n'avais aucune possibilité de m'y rendre.
Finalement, à force d'apprivoisement et puis de montrer patte blanche et puis peut-être un petit peu de détente en géopolitique, vous avez réussi à pénétrer donc cette porte de la sérénité. C'est par
oui,
là que
absolument.
Vous avez fait ce voyage.
Oui, tout à fait. Mais oui, puis il faut dire que j'ai créé aussi énormément de relations, des amis qui m'ont permis dans les années 2000 de pénétrer dans cet état. Et à partir de là, j'ai commencé véritablement à parcourir cet état qui est encore maintenant en grande partie difficile d'accès. Il faut des permis, il faut des autorisations, c'est pas évident.
Et ça, c'est un petit peu une de vos marques de fabrique, Alain Vaudet, si j'ai bien compris, de vivre longtemps dans le pays sur lequel vous allez faire un reportage. C'est vraiment pour vous imprégner de la culture, de la vie.
Oui, c'est exact. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours tenu à partager le quotidien des populations avec lesquelles j'ai passé pas mal de temps, que je découvrais. Et année après année, en revenant régulièrement dans ces régions, je retrouvais des familles avec lesquelles je partageais pas mal de jours, pas mal de semaines, pas mal de mois. Les relations avec ces personnes qui me recevaient sont devenues très souvent extrêmement fortes. Et très souvent, j'étais adopté par les familles, si vous voulez, et ça m'a permis de partager des moments qu'en temps normal, un étranger ne pourrait pas voir ou pas facilement voir.
On commence donc notre itinéraire, notre virée, par cette fameuse porte de la sérénité,
oui.
Qui mérite peut-être une explication sur son nom.
Porte de la sérénité, parce que c'est une région qui est calme et en dehors du temps. Les gens ont vécu pendant longtemps en dehors du temps. Il y a pas mal de minorités ethniques qui vivent là-bas. Il y a des populations d'origine tibétaine, de culture tibétaine, de religion bouddhiste également. Mais vous avez également des animistes. Les musulmans, il y en a très très peu. Et puis vous avez aussi des populations, il y a les hindous également, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ce sont essentiellement des populations de culture tibétaine ou des tibéto-mongols ou des tibéto-birmanes. Et ces populations ont vécu très très longtemps hors du temps, si vous voulez. Parce que cette région est difficile d'accès d'abord, c'est une zone de montagne très difficile d'accès. Les Anglais qui ont eu du mal à occuper cette région n'ont pas été partout non plus. Et puis au moment de l'indépendance de l'Inde, cette région s'est fermée complètement parce que la Chine ne reconnaît pas la frontière nord de cet état qu'on appelle la ligne McMahon, qui a été établie en 1911 par le service géographique de l'armée des Indes. Et cette frontière n'est pas reconnue en grande partie par la Chine. Et en 52, par exemple, la Chine a envahi une partie de cet Arunachal Pradesh pendant plus d'un mois, et ça fait énormément de victimes parmi les troupes indiennes qui n'étaient pas préparées à cette invasion-là, si vous voulez. Et donc les Chinois ont occupé une partie de cette région pendant un mois. Il y a eu vraiment des conflits assez durs, assez importants. Et au bout d'un mois, les Chinois se sont retirés derrière la frontière, la ligne McMahon qu'ils occupent encore actuellement. Mais ils revendiquent toujours une partie de cette région. Par exemple, en 2020, c'est quand même récent, il y a eu un accrochage assez sérieux entre les troupes chinoises et les gardes frontières indiens. Et il y a eu, je crois, 23 morts du côté indien. Du côté chinois, il y en a eu aussi, mais on ne sait pas. On ne sait rien de plus, on n'a pas de chiffres. Donc c'est toujours pas fini.
C'est un statu quo un petit peu précaire.
Tout à fait. Et on en reparlera, malheureusement, on reparlera de cette région à un moment ou à un autre. Parce que là, il y a vraiment des gros problèmes avec la Chine là-bas.
Et qu'est-ce qui peut expliquer cette tentation de la Chine de conquérir cette région?
C'est relativement simple, parce que de l'autre côté de cette frontière de l'Arunachal, vous avez le Tibet occupé donc par la Chine. Et pour les Chinois, cette partie de l'Arunachal Pradesh, une grande partie de cette Arunachal Pradesh, fait partie du Tibet. Donc ils n'ont jamais reconnu la ligne McMahon. Le problème est là. Et avec la Chine, il y a aussi des problèmes du côté du Cachemire aussi. Hein. Ils revendiquent également là une partie, au Ladakh également. Il y a des enclaves qui le revendiquent.
On franchit la porte de la Sérénité. Et puis là, se découvrent donc des paysages fabuleux, fantastiques.
Il y a une très grande variété dans ces paysages, après avoir été contrôlés. Quand vous franchissez les barrières, vous pénétrez immédiatement dans le piémont himalayen. Bien sûr, c'est tout de suite de la montagne, mais cette région, tout le piémont himalayen est couvert de forêts subtropicales. C'est la jungle. Il fait très chaud, il y a une végétation exubérante, il y a des animaux, beaucoup d'animaux sauvages qui vivent encore là-dedans. Il y a par exemple des éléphants sauvages, j'en ai vu pas mal depuis le temps que je vais là-bas. Il y a des tigres, il y a une quantité incroyable de variétés de singes. Non, c'est une région qui est très riche à ce niveau-là. Et vous avez aussi ces minorités ethniques qui vivent, il y a très nombreuses populations tribales, plus d'une quarantaine, et qui vivent dans toute cette région. Et qui vivent encore maintenant, très souvent, pour certaines, relativement simplement.
Ça veut dire qu'elles ont réussi à préserver leur tradition?
Et réussi par la force des choses. C'est une région qui était fermée. D'abord par les Anglais qui avaient du mal à contrôler cette région, mais surtout par les autorités indiennes. Ça a été fermé, cette région, encore une fois, parce que c'est encore maintenant considéré comme étant une zone militaire. Mais cette région s'ouvre maintenant, tout doucement, par petites touches, si vous voulez. Le tourisme commence tout doucement à se développer, mais est extrêmement faible encore, et sous contrôle aussi. Ces populations, ces minorités ethniques sont quand même de plus en plus en contact avec le monde extérieur. Maintenant, il y a les communications qui sont dans l'ensemble plutôt bien développées. Vous avez l'électrification qui arrive, il y a des routes, des pistes plutôt qui sont tracées. Les jeunes maintenant sont de plus en plus éduqués aussi et ont de plus en plus une ouverture sur le monde extérieur, pratiquement quelles que soient les minorités. Dans les villages, très souvent, vous avez des télés qui fonctionnent à longueur de temps. Hein. Vous avez un peu partout, au sommet des montagnes, des collines, vous avez des relais qui, justement, pour le passage de l'information et l'électricité, que dans bien des endroits, il n'y en a pas encore, mais ils ont des petits panneaux solaires pour alimenter quelques lampes et faire fonctionner une télé. Et puis, vous avez aussi les téléphones, les portables. Et ça, vous en avez partout. Vous verrez même des personnes qui sont en campagne, parfois, qui ont très peu de vêtements sur elles, mais dans le sac en toile qu'ils portent sur le côté, ils ont des téléphones. Et puis, d'un seul coup, ça sonne et puis ils parlent. C'est tout à fait étonnant. Alors, je ne vous dis pas les gosses. Et ça marche très, très bien aussi, parce que vous avez des relais un peu partout. Les gouvernements, les responsables locaux ont particulièrement soigné le développement de tous ces moyens de transmission de l'information. C'est tout à fait étonnant de voir ça. Il y a vraiment de gros changements qui touchent toute cette région, mais à des degrés divers.
C'est un petit peu paradoxal, parce qu'on dit c'est bien qu'ils puissent s'ouvrir, hein. Et puis parfois ça veut dire aussi la perte des coutumes.
Bien sûr, l'ouverture sur le monde implique presque, toujours, une perte des traditions, une perte des coutumes. Mais là, il faut que ça se fasse d'une manière raisonnée, je dirais. Il ne faut pas imposer tous ces changements qui peuvent être parfois trop radicaux. Là, ça se fait, je dirais, d'une manière plus raisonnable quand même. Mais c'est en cours, hein, c'est en cours. Et cette région, les autorités indiennes découvrent aussi qu'elle a un potentiel assez important, notamment au niveau des cours d'eau, avec tout ce que ça peut donner au niveau du développement de l'énergie électrique, etc., avec des barrages. Il y a vraiment une mise en valeur qui commence maintenant à se faire. Mais il faut, je ne veux pas dire partir de zéro, il ne faut pas exagérer, mais on part de, on n'a pas grand-chose au départ pour démarrer.
Alain Vaudet, vous parlez des cours d'eau, alors forcément... Quand on pense à cette région de l'Himalaya, on pense au fleuve Brahmapoutre.
Oui, que je connais très bien.
Oui, qui est un des fils conducteurs de votre voyage.
Oui, tout à fait. Tout à fait, le Brahmapoutre qui prend sa source très loin dans au Tibet et qui ensuite pénètre par des gorges absolument extraordinaires en Arunachal Pradesh. Ce fleuve fait 2900 km de long. Il prend sa source donc au Tibet à environ 5000 mètres d'altitude. Et il porte trois noms. Au Tibet, on l'appelle le Tsangpo. En Arunachal Pradesh, on l'appelle la Siang, le Siang ou la Siang, ça dépend. Et puis en Assam, il prend le nom de Brahmapoutre, jusqu'au golfe du Bengale, là où il se marie avec le Gange aussi.
Quand vous faites un voyage de la sorte, Alain Vaudet, comment est-ce que vous vous logez?
Soit je loge dans des petites structures locales, des petits hôtels tout simples, il y en a quand même, le tourisme tout doucement se développe et les gens commencent à bouger aussi maintenant. Mais autrement, c'est chez l'habitant que je vis, dans les familles, je partage leur quotidien.
On a compris, vous avez pris un peu le temps pour les apprivoiser, mais est-ce qu'ils sont d'une nature hospitalière, accueillante?
Ah oui, tout de suite je dis oui. Ah oui, bien sûr. Je garde de merveilleux souvenirs de ces rencontres. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui me motive maintenant à continuer à partir là-bas. D'abord, à approfondir certaines choses encore, et puis de partager ces moments avec les populations avec lesquelles que je rencontre et avec lesquelles je vis. C'est d'une richesse absolument incroyable. Hein. Et vraiment, c'est un réel plaisir pour moi d'aller là-bas. Alors, les conditions de confort et tout ça, moi, j'y attache aucune espèce d'importance. Je vis comme les personnes. Je peux vivre, dormir par terre. Ça ne me dérange absolument pas à partir du moment où je suis avec ces personnes. Je pars avec eux quand ils partent dans les forêts pour chasser, pour travailler. Je pars avec eux quand ils vont dans les rizières, dans les champs, pour travailler également. Je partage leur quotidien.
Justement, Alain Vaudet, j'allais vous demander quel était leur quotidien. Donc c'est ça, finalement, c'est chercher de quoi se nourrir.
Ce sont des agriculteurs, ils ont des petites rizières, ils ont, oh pardon, c'est pas énorme, c'est de la montagne, hein. Ce sont parfois très souvent des petites cultures en terrasse. Donc ils travaillent la terre. Selon les régions, quand on est en altitude aussi, ils cultivent des fruits, on trouve des cerisiers, on trouve des amandiers, on trouve des pêchers. Plus bas, vous avez des orangers, on cultive les mandarines, il y a des ananas, il y a vraiment, selon l'étage où l'on se trouve, la végétation change. Donc c'est quand même très varié à ce niveau-là. Ils cultivent le riz, bien sûr, des légumes également, et puis ils partent à la chasse et ils partent à la pêche. Il y a de nombreux cours d'eau et ils pêchent facilement. Moi, ce que j'ai pu voir, ce sont des rivières qui sont relativement poissonneuses.
Vous parliez de chasse. Que mangent-ils comme animaux? Est-ce que précisément, vous disiez qu'il y avait beaucoup de singes? Est-ce qu'ils mangent des singes?
Non. Enfin, pas à ma connaissance. Je dis ça parce que je l'ai filmé, c'est assez curieux de voir. Ils mangent les rats des champs, par exemple. Les rats des champs, après les récoltes dans les rizières, quand les récoltes sont terminées, les rizières sont asséchées, et là, ils vont à la chasse aux rats des champs. Ils les attrapent, vivants, bien sûr, et puis ensuite, ils les font griller, ils les mettent en brochette, et puis ils les vendent dans les marchés, ou alors ils les mangent. Il y a ça, mais il y a aussi du gibier, et puis ils ont des poules, ils ont des porcs aussi, ils font un tout petit peu d'élevage, mais c'est sur le plan familial que ça se passe. C'est pas énorme comme au niveau de l'agriculture, ça reste familial. Par contre, ce qui est intéressant, ils font de la culture bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a absolument rien. Il y a vraiment une ouverture là aussi qui est très intéressante.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont aussi connu l'agriculture avec une question de rendement et donc de produits phytosanitaires plus ou moins...
Non, ça se fait un peu, mais pas de trop. Non, pas comme dans certaines régions ailleurs en Inde. Mais ça pourrait venir. Ça pourrait venir à partir du moment où on cherche du rendement.
Oui. Alain Vaudet, il nous faut avancer un petit peu dans ce voyage. Hein. Et je crois que maintenant, c'est une escale, hein, sur l'île de Majuli. Alors, je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, Majuli.
Alors, qu'est-ce qu'elle a? cette île.
D'abord, c'est une île qui ne se trouve pas en Arunachal. Elle se trouve au pied de l'Arunachal, mais c'est une île du Brahmapoutre. C'est la plus grande île en eau douce, si vous voulez, de la planète. Elle est énorme, immense. Et c'est une île qui va disparaître, si vous voulez, chaque année, parce que le Brahmapoutre, à l'époque de la mousson, déborde. Les inondations sont absolument catastrophiques, immenses. Une bonne partie de la grande plaine à Assamès, la plaine du Brahmapoutre, au pied de l'Himalaya, eh bien, est inondée. Hein. Cette année, ça a été encore catastrophique. J'ai des amis là-bas qui me tiennent au courant. Et donc, cette île, année après année, vous avez des pans entiers de cette île qui partent emportés par le courant. Alors, les gens se battent pour essayer de limiter cette érosion, mais on pense que de toute manière, dans pas tellement longtemps, eh bien, cette île aura peut-être totalement disparu. Alors, vous avez des ashrams, là aussi, sur cette île, avec des moines qui y vivent. C'est très, très particulier. Parce que ces moines pratiquent un hindouisme qui est très particulier, oui. Leurs prières, très souvent, ce sont des chants. Ils chantent et ils dansent. Et ceci plusieurs fois par jour, le matin, dans la journée et le soir. Puis là aussi, l'accueil est absolument étonnant, très très chaleureux. Et c'est une île qui commence maintenant à être visitée.
Justement, à la Vaudet, si vous parlez des ashrams et des moines, on peut peut-être faire un petit volet justement sur ces religions qui sont pratiquées. Vous avez évoqué un petit peu ça au tout début de cet entretien en disant qu'effectivement, ils cohabitent finalement de façon très harmonieuse et très respectueuse les uns des autres.
Vous avez toujours les populations de culture tibétaine, ce sont des bouddhistes. Il y a de grands monastères, dont un surtout, qui est sans doute le plus grand monastère en Inde. Et c'est là où le Dalai Lama, quand il a quitté le Lhasa, quand il a quitté le Tibet, suite à l'invasion chinoise, eh bien, il s'est réfugié dans ce monastère pendant un moment, avant de poursuivre ensuite et d'aller là où il vit actuellement.
C'est le monastère de Tawang, T-A-W-A-N-G, monastère de l'école Gelugpa, des bonnets jaunes.
C'est un très grand monastère, j'y vais souvent parce que c'est pareil, j'aime bien passer du temps avec les moines, c'est chouette. Puis les moignons aussi, les jeunes qui sont là, parce que c'est ce monastère notamment, vous avez c'est une école également, vous avez les petits moines qui sont là, qui sont pris en charge par les plus grands. Il y a une ambiance vraiment tout à fait étonnante.
Ces jeunes enfants, justement, ils sont, vous dites les moignons, c'est parce qu'ils sont destinés à devenir moines?
Pas forcément. Non, une fois qu'ils ont suivi un cursus assez long, aux alentours de l'âge de 22-23 ans, avant de prononcer les vœux, des vœux qui seront en principe définitifs, eh bien, ils peuvent prendre la décision de quitter, de retourner à une vie, je dirais, différente. On leur impose pas, si vous voulez, c'est eux qui choisissent. Mais souvent, les parents, pour eux, c'est une certaine fierté d'avoir un enfant de leur famille, ou un ou deux, qui suivent une éducation dans les monastères. C'est une fierté. D'ailleurs, les monastères, là-bas, sont également entretenus grâce à l'aide des villageois, hein, qui versent une petite partie de leurs revenus ou qui travaillent, qui entretiennent les monastères.
On est d'accord, les moines bouddhistes sont exclusivement des hommes?
Ah non. Non. Vous avez des hommes également, oui, il y en a. Évidemment, elles sont moins nombreuses dans les monastères. Les monastères...
Films et dans vos photos, ce sont les couleurs, et notamment les couleurs des vêtements.
Il y a un artisanat qui est extrêmement riche. Chaque minorité a ses propres costumes, ses propres motifs. Et on peut dire que dans presque chaque famille, vous avez des femmes, ce sont essentiellement des femmes d'ailleurs, qui préparent les couleurs à partir de produits naturels, très souvent, comme le bleu avec l'indigo sur des plantes, tout ça. Chaque tribu se reconnaît à son costume. Et au motif de ses costumes, ou aussi très souvent de ses bijoux, parfois de ses armes, on les reconnaît très facilement.
Est-ce que ce sont des vêtements qui ne sont que pour le folklore ou pour les jours de fête, hein? Ou est-ce que dans le quotidien aussi, c'est très coloré?
Dans le quotidien, oui. Oui, mais dans le quotidien, c'est des vêtements... Alors, il y a des vêtements que nous portons aussi, moi, des vêtements, je dirais, d'occidentaux, en quelque sorte. Les jeans, par exemple, oui, bien sûr, ils ont ça, surtout les jeunes. Mais quand il y a des fêtes, par exemple, ils sortent, alors là, très facilement, leurs vêtements de cérémonie, qui sont de toute beauté. Mais dans certaines tribus, il y a encore des personnes qui sont relativement nombreuses, qui portent encore des vêtements traditionnels, mais qui sont plus vieux, qui sont plus âgés, plus usés, etc., etc. Mais oui, ça se fait, c'est encore relativement souvent. Et comme les fêtes, les cérémonies sont extrêmement nombreuses, il est facile de voir, lors de ces déplacements, des personnes habillées dans les costumes traditionnels et de fête.
Et c'est ce qui est bien représenté dans votre film sur l'Himalaya, qui s'appelle « Entre Bhoutan et Myanmar ». On ne peut pas se quitter à la Vaudet sans parler sans doute du thé.
Oui,
un incontournable là-bas.
Ah, c'est un incontournable là-bas, oui. Les plantations de thé, ce sont les Anglais qui sont à l'origine d'ailleurs de ces plantations, qui sont devenues extrêmement importantes, immenses, et ça, qui comptent beaucoup d'ailleurs le thé sur le plan économique. C'est une richesse pour l'Inde et pour ses régions, bien sûr. Les plantations de thé, elles sont essentiellement en Assam, la grande plaine assamaise, mais vous en trouvez également en Arunachal Pradesh. J'ai connu ces plantations de thé en 72, où tout était pratiquement fait à la main, alors que maintenant, les cueillettes des pousses se font toujours à la main. Et ça nécessite une main-d'œuvre abondante. Mais après, tout le reste du traitement du thé se fait maintenant en grande partie avec des machines. Il y a une modernisation aussi qui est arrivée et qui est efficace.
Alain Vaudet, malheureusement, ce voyage dans cette région de l'Himalaya, je vous laisse...
L'Arunachal Pradesh.
Se termine. Est-ce que pour terminer, vous auriez une anecdote particulière que vous auriez envie de partager avec nos auditeurs? Il y en a peut-être 1000 d'ailleurs.
Il y en a beaucoup, non. Mais c'est simplement que moi, je rêve d'aller, et j'irai, là où le Brahmapoutre pénètre en Arunachal Pradesh, dans ces fameuses gorges que je n'ai pas pu voir encore, qui sont là aussi très sévèrement contrôlées par l'armée indienne et puis les Chinois de l'autre côté. Donc je rêve d'aller là-bas et j'ai des familles, des personnes là-bas, des personnes qui habitent sur place, qui veulent m'y emmener. Donc... je vais repartir dès que possible là-bas et j'irai voir ce lieu où, un peu pour moi, magique et mythique, où pénètre l'Arunachal, le Brahmapoutre.
Ça nous fera une autre occasion de voyager avec vous, à vos côtés.
Je le souhaite. Je le souhaite, partager.
Et merci beaucoup justement de nous avoir permis, là pendant ce petit entretien, de voyager, d'être complètement dépaysé, même si effectivement il y a les technologies modernes de communication qui sont un petit peu déstabilisantes. Hein. Mais voilà, vous nous avez quand même emmenés dans des mondes et dans des tribus un petit peu lointaines et très très dépaysantes, donc je le rappelle. Pour ceux qui veulent voyager encore un petit peu avec vous, Alain Vaudet, on peut aller sur votre site internet, on verra les films que vous avez réalisés et puis les ouvrages.
Oui. Aussi. Alors j'en prépare un qui va faire connaître l'Arunachal Pradesh.
Voilà, et comme ça les gens pourront le voir, les auditeurs pourront le voir écrit et voir que c'est pas si facile à prononcer finalement. Hein. Je me dédouane un petit peu. Je reviens juste sur vos livres. Oui. Donc vos livres où on pourra admirer aussi votre travail photographique, et notamment en commençant par les Vosges, alors même si ce livre est épuisé, peut-être que dans certaines librairies d'occasion on peut le trouver. Donc les Vosges qui étaient votre premier objet. Oui.
Alors les Vosges, je vous coupe, les Vosges, il est très recherché, en tout cas dans le Grand Est, très recherché, il y a des gens maintenant qui le récupèrent lors de brocantes. C'est quand même étonnant. Bon. C'est un livre qui est très recherché.
Bah donc,
ne prenez pas à ça.
Ça montre bien la qualité de cet ouvrage. Et puis ensuite, vous avez fait un livre également sur l'Irlande et puis l'Indonésie, dont vous nous avez parlé tout à l'heure.
Et j'en ai fait un autre encore. C'était une demande du roi du Maroc. Le fils du roi, le roi actuel maintenant, je veux dire, il m'a demandé de sortir un livre, de faire tout ce qui était le travail photographique. Et j'étais parti deux fois en mission dans une région très peu connue du Maroc pour justement réaliser toute une série de photos qui ensuite ont servi à un livre qui a été écrit par des universitaires marocains. Mais c'était une demande du roi du Maroc.
C'est pas rien. Sur votre site, en tout cas, on trouve tout ça. Et peut-être qu'on vous reverra bientôt à l'occasion de la prochaine saison d'Altaïr, en Mayenne. Alors peut-être avec ce nouveau film.
Oui, sans modifier.
Merci beaucoup, Alain Vaudet.
Mais c'est moi qui vous remercie pour votre accueil.
Eh bien, je vous en prie. Merci à vous pour ce voyage donc en Himalaya, dans la partie nord-est de l'Himalaya.
Absolument.
Voilà. Donc, un grand merci.
Merci.